Je vous rappelle que cet après-midi, le premier cours sera le cours des textes de saint Thomas, des textes d'Aristote, et puis le second cours sera le cours de philosophie première. Je fais ça parce qu'à 3 heures, les gens dorment encore un peu, alors le texte d'Aristote réveille, n'est-ce pas ? Et ça permettra à ceux qui n'assistent pas au cours d'Aristote de n'être pris qu'à 4 heures. Donc je répète, d'abord le texte du livre Zeta, pour Dieu, jugement de sagesse, numéro 5. On voit que toute créature en tant que telle est limitée dans son être et inintelligible. C'est seulement dans son acte d'être qu'elle est intelligible. La limite provient de la potentialité qui rend la créature opaque, incompréhensible pour l'autre. Pourriez-vous expliquer cela ? Bon, très bien. Vous avez raison de souligner certaines choses que je reprends ici avec... Nous y reviendrons du reste, parce que je vais revenir au numéro 5. Hein. Bien. On est intelligible dans la mesure où on est en acte. L'intelligibilité d'une réalité provient de son acte. Vous allez me dire comment ça se fait ça. C'est tout simplement parce que la connaissance est un acte. Dieu est toujours en acte. La potentialité, c'est ce qui implique une indétermination. Tout ce qui est indéterminé est inintelligible par soi. Vous sentez ça très fort dans l'ordre pratique, quand vous êtes un tout petit peu en état d'hésitation, d'indétermination. Vous êtes agité parce que justement vous n'êtes pas déterminé. Vous ne savez pas très bien ce que vous allez faire. Hein. Vous pourrez aller d'un côté, vous pourrez aller de l'autre. C'est comme la conduite de l'automobile. Hein. Vous voyez les deux routes, vous ne lisez pas les poteaux indicateurs. Et la dernière minute, vous le voyez, n'est-ce pas ? Alors, vous êtes indéterminé tant que vous ne voyez pas. L'acte détermine et donne l'intelligibilité. La potentialité demeure dans l'indétermination, le doute. Quand vous êtes déterminé, alors à ce moment-là, la lumière se fait. Il y a quelque chose qui nous prend, qui nous saisit et qui nous oriente. Et qui nous permet par le fait même d'aller dans le sens où on doit aller. Donc, la potentialité fait qu'on reçoit quelque chose qui vient nous déterminer. Et le fait d'être reçu, ça implique le point de vue de la limite. La limite, c'est la conséquence de la potentialité qui fait que l'acte, parce qu'il est reçu, n'est pas pleinement lui-même et donc n'est pas pleinement intelligible. Et c'est pour ça que la limite montre tout de suite, toujours, la limite de son être et de son intelligibilité. La limite comme telle n'est pas intelligible. C'est la conséquence de la potentialité, parce que la potentialité reste inintelligible, et la limite provient toujours de la potentialité. Quelque chose qui n'est pas reçu n'est pas limité. C'est quelque chose qui est reçu qui est limité. Alors, la limite implique toujours le point de vue d'un acte reçu. Et c'est parce que l'acte est reçu qu'il a justement cette limite. Et alors, en tant qu'acte, on peut comprendre la limite. Et on comprend comment la limite, c'est le contour de l'intelligibilité. C'est ce qui arrête l'intelligibilité parfaite. On le reverra du reste successivement, ce point de vue-là. Alors nous allons prendre le numéro 5 tout de suite, hein, dans le jugement de sagesse. Parce que je crois que la dernière fois, dans ma précipitation, j'avais pris tout de suite le numéro 6. Alors je reviens en arrière, si vous voulez. Si l'être premier est infini dans son être, ce qui est unique, il est au-delà de tout lieu et de toute situation. Il est, tout en étant intimement présent à tous ceux qui existent, mais toute créature, donc il est tout en étant intimement présent à tout ce qui existe, du fait même qu'il est. Mais toute créature étant limitée et localisée, située, et aucune ne peut être intimement présente à une autre créature. Vous voyez, nouveau jugement d'existence. Alors comprenez bien, dans la contemplation de l'omniprésence de Dieu, c'est toujours dans la contemplation des manières d'exister de Dieu. Or, immédiatement après le point de vue de l'infini de Dieu, on peut regarder que Dieu est omniprésent. On va expliquer ce que ça veut dire, hein. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de préciser le contenu de la contemplation de l'omniprésence de Dieu. Quand je dis Dieu est présent à tout parce qu'il est infini. Parce que Dieu est infini, Dieu ne peut pas mettre de barrière. Dieu n'est extérieur à rien. C'est extraordinaire du reste. Hein. Nous sommes extérieurs à notre voisin. Heureusement pour notre voisin, n'est-ce pas ? Mais nous sommes extérieurs à lui. Parce qu'autrement, on déborderait sur lui, ça dirait pas. N'est-ce pas ? Nous sommes extérieurs à notre voisin. Mais Dieu n'est extérieur à personne. Dieu n'est étranger à personne. Parce que si je suis extérieur, je suis donc étranger. Je suis de l'autre côté de la barrière. Il y a des douaniers entre deux. Dieu n'a pas besoin d'avoir de douaniers. N'est-ce pas ? Parce qu'il n'est extérieur à personne. Étant infini, l'extérieur à personne. C'est une chose inouïe du reste, quand on essaie de comprendre que tout ce que Dieu crée est distinct de lui, mais n'est pas extérieur à Dieu. Et c'est ce que nous exprimons quand nous disons l'omniprésent. Dieu est omniprésent, c'est l'omniprésence de Dieu, l'omniprésence du Créateur, de Dieu en tant que Créateur. Il est omniprésent à toutes les créatures. C'est pour ça que Tertullien dit « Dieu est comme une mère qui ne dépose jamais son fardeau ». Parce que la créature se fait, la création se fait en Dieu. Pas extérieur à Dieu. Nous imaginons que Dieu est au-dessus, puis il a déposé sa créature, puis petit coup de chiquenaude, allez, vas-y, maintenant dépose-toi, puis on va voir comment tu vas te débrouiller. Bon. Ça, c'est de l'imagination pure et simple, c'est parce que nous mettons une extériorité à Dieu. Il n'y a pas d'extériorité à Dieu. Dieu ne peut pas être extérieur à sa créature. C'est impossible. Et donc, si Dieu crée, il ne peut créer qu'en portant sa créature. C'est pour ça qu'il est dit que le Verbe porte toute chose en tant qu'il est créé. Il porte sa créature, il ne peut pas la déposer en dehors de lui, parce qu'il n'y a rien en dehors de lui. Il ne peut pas la déposer en dehors de lui. Vous voyez, là, c'est une purge de l'imagination. Ça purifie complètement notre imagination qui instinctivement fait que nous mettons Dieu dans un lieu, le ciel. N'est-ce pas ? Alors nous mettons Dieu dans le ciel. Alors, c'est très très haut le ciel, mais c'est quand même un lieu. Non, Dieu n'est pas dans un lieu. Parce qu'il est infini, Dieu n'est pas dans un lieu. La question du lieu et la question du temps, le temps nous allons le voir après, la question du lieu et du temps, c'est un conditionnement d'une limite. C'est parce que nous sommes limités que nous sommes conditionnés par le lieu. C'est pour ça que nous sommes, nous, dans un lieu. Ça, c'est bien évident, nous sommes dans un lieu. Et notre imagination joue beaucoup sur la question du lieu et du temps. L'imagination joue toujours là-dessus. C'est le lieu, le temps. Parce que c'est le conditionnement. Un conditionnement est toujours lié à l'imaginaire. L'imaginaire aime le conditionnement, comme l'intelligence aime la finalité. Tout à fait la différence entre les deux. L'imaginaire est dans le conditionnement. Et on demeure dans le conditionnement au point de vue imaginaire. Et tandis que la finalité, l'esprit cherche la finalité. Et la finalité est au-delà du conditionnement. Donc nous pouvons dépasser le conditionnement. Et c'est pour ça que nous pouvons parler de Dieu comme d'un être qui est sans lieu. Il n'y a pas de lieu. Et c'est ce que nous disons en disant l'omniprésence de Dieu. Donc il faut bien comprendre ce que c'est que l'omniprésence de Dieu. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que l'omniprésence de Dieu, qu'est-ce que c'est que la présence ? Savoir ce que c'est que la présence. Vous êtes présent à quelqu'un de diverses manières. La présence dans le métro, quand il y a affluence. Alors, c'est ce que c'est. Les sardines qui s'entassent. Puis quelqu'un qui marche sur votre pied. Vous dites à ce moment-là, je voudrais que simplement que vous êtes, qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas votre présence. Parce que c'est un manque de respect vis-à-vis de votre présence, si on vous écrase les pieds. Non. Il y a une présence quantitative. C'est sûr, une présence quantitative. On vous écrase les pieds. Vous aviez un volume un peu plus grand qu'on l'avait prévu, alors on vous écrase. C'est pour ça que je dis les sardines. Alors on les entasse le plus possible. Et vous avez une extériorité. La quantité donne l'extériorité. On verra ça. Après la qualité, on verra la quantité. La quantité donne l'extériorité. Un être quantifié, c'est un être qui implique une extériorité. Donc, présence quantitative. On est les uns sur les autres. Il y a des présences qualitatives. C'est très différent. Vous êtes présent à quelqu'un quand vous pensez à cette personne. Mais ce n'est plus une présence physique. Le physique est quantitatif. Tandis que la présence qualitative, elle peut être intentionnelle. Présence intentionnelle par la connaissance et par l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, il est présent en vous, du fait même que vous l'aimez. Et vous en apercevez ordinairement à son absence. C'est l'absence qui rend présent. N'est-ce pas ? Vous voyez bien. C'est le fameux exemple de Sartre. Hein. Je m'aperçois. Il faut l'intentionnalité de la présence pour s'apercevoir de l'absence. Pierre est absent du café. Puisque c'était toujours les réunions de Sartre. Hein, c'était les rendez-vous de Sartre au café. Alors, Pierre est absent du café. Parce que normalement, je devais le rencontrer. Parce que Pierre est toujours absent du café. Pourquoi vous dites-vous qu'il est absent du café ? Parce qu'il aurait dû être là. Donc il y avait un rendez-vous intentionnel. Par l'intentionnalité, il devait être là. Est-ce qu'il est là ? Tiens, il y a l'absence de tel ou tel frère. Pourquoi il est absent ? Parce qu'il devait être là. Donc on est absent parce qu'on devrait être là. Et quand on est absent, on donne un sens particulier à la présence. Toujours. C'est quand les gens sont absents qu'on commence à comprendre leur présence. Par l'absence que la présence se fait sentir, n'est-ce pas ? Toujours. La négation va redonner un sens à l'affirmation. Et la négation va présenter. C'est très intéressant pour l'affirmation et la négation, la question de la présence et de l'absence. C'est une petite question très intéressante. Alors, par la connaissance, je suis présent. Par l'amour, je suis présent. D'une présence intentionnelle, d'une présence affective, d'une présence qui n'est pas la présence physique, qui est autre chose. Alors, il peut y avoir des présences virtuelles. Par le désir. Par le désir, quelqu'un est présent. Alors, c'est encore une présence intentionnelle. mais c'est une présence virtuelle. Vous voyez donc les différentes présences. Vous pourriez ajouter, parce que c'est toute la question de la théologie, et je n'en parle pas ici, quel est le mode de présence de Jésus dans l'Eucharistie ? Ce n'est pas une présence physique, c'est plus qu'une présence intentionnelle. Vous voyez ? Nous sommes des pauvres êtres limités, et pour nous c'est toujours la dialectique entre les deux. Et toutes les querelles sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie, c'est le deux. Un abbé de Paris que je ne nomme pas avait fait un petit topo en disant « Jésus n'est pas présent physiché ». Alors toutes les braves personnes, donc ils ne croient plus à la présence réelle. Le réel est au-delà du physique et au-delà de l'intentionnel. Très très bien, ça. Il faut faire attention, il ne faut pas scandaliser, sauf pour réveiller. N'est-ce pas ? Mais autrement il ne faut pas scandaliser pour le plaisir de scandaliser. Quand vous dites que Jésus n'est pas présent physiquement, quantitativement, c'est bien évident qu'il n'est pas présent quantitativement. Et il est plus qu'une présence intentionnelle. La présence intentionnelle serait simplement de dire parce que je crois, il est présent. Non, il est présent réellement, mais pas physiquement. Alors on dit sacramentellement. Ça n'explique rien. Vous mettez un mot. Alors il faut derrière le mot découvrir per modo substantié. Ça ne vous dit pas beaucoup plus. Il est présent per modo substantié. Il est présent comme une substance peut être présente. C'est-à-dire comme un principe radical peut être présent. Mais pas quantitativement. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un dans l'hostie, imaginativement, c'est pas réel. Vous ne pouvez pas voir la présence, avec votre œil, la présence per modum substantié. C'est invisible. Alors s'il y a un miracle, c'est Dieu qui crée une petite image. Alors l'abbé Laurentin se demande comment on peut atteindre cette petite image. Comment on peut l'atteindre, comment ça se fait. Alors il essaie d'expliquer comment on peut essayer d'atteindre cette image. Et c'est vrai, dans une vision. Un jour je le voyais en discuter là-dessus, alors je lui ai dit, ben oui, comprenez, dans une vision, quand tu as raison. C'est la subjectivité transcendantale. Alors il a ouvert de grands yeux en me demandant qu'est-ce que ça veut dire la subjectivité. Mais oui, parce que ça vient de l'intérieur. Dans toute vision, ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur en premier lieu. Ce n'est pas la transmission qui se promène et qui vient, n'est-ce pas ? Imaginativement, c'est ce qu'on voit, c'est la salette. Elle vient, ça c'est l'imagination qui fait ça. L'imagination, mais la réalité, la présence de Marie vient de l'intérieur. Et c'est là où la subjectivité est première. C'est Dieu qui transforme et qui permet, qui donne une certaine objectivité imaginative. C'est très intéressant, du reste, la question de la présence. Quel genre de présence y a-t-il dans une vision ? Toute la question de la présence. Hein. La question de la présence, c'est une relation. Quelqu'un est présent à quelqu'un dans une relation. Et on est présent dans la mesure où on agit sur quelqu'un. Alors on agit de l'extérieur, on agit de l'intérieur. On agit quantitativement, ça c'est de l'extérieur. Vous marchez sur les pieds. C'est une manière d'être présent, que voulez-vous ? Quelqu'un qui s'endort, vous êtes présent, lui donnez un bon petit coup de poing. Hein ? Réveille-toi. Vous voyez, présence extérieure. Vous marchez sur les pieds. Tout doucement, non, pour le réveiller. Présence extérieure, présence intentionnelle, c'est déjà intérieur. Et présence divine, c'est tout à fait intérieur. Or, la présence sacramentelle ne peut pas se comprendre par ces deux modes de présence. Elle se comprend par la présence d'immensité, parce que c'est une présence divine, et par la présence de la grâce. Vous voyez ? Je vous dis ça, c'est parce que c'est intéressant pour nous de voir, en même temps qu'on voit l'omniprésence, de voir toutes les présences. Vous avez donc la présence quantitative qui se fait de l'extérieur, la présence intentionnelle qui se fait de l'intérieur par le point de vue de l'esprit. Vous avez trois modes. On peut en avoir plusieurs, mais au fond, c'est les trois modes essentiels. Vous avez une troisième type de présence, celle-ci, que nous allons essayer d'expliquer. Vous avez un quatrième type de présence par le point de vue de la grâce. Et vous avez un cinquième type de présence par le point de vue du sacrement. Et vous avez un sixième type de présence par le point de vue charismatique. Les apparitions. Six modalités de présence. Et chacune sont différentes. Il s'agit de comprendre qu'est-ce que c'est que la présence. Six modalités de présence. Je reprends pour que vous voyez bien. C'est important d'y réfléchir. Et nous allons voir que le fondement de toutes les présences, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est ça que l'intérêt de ce que nous allons voir maintenant. C'est l'omniprésence de Dieu qui est le fondement de tout. Donc, première présence quantitative, quelqu'un vous marche sur les pieds. Tu m'es présent douloureusement, n'est-ce pas? Parce que je te marche sur les pieds. Au moins comme ça, tu t'aperçois que je suis là. Comment tu t'endors? La présence suit toujours l'action et la passion. Je pâtis et donc j'essaie que quelqu'un est présent. Donc, présence physique. Présence qualitative, intentionnelle, par le point de vue de la connaissance, par le point de vue de l'amour. Je pourrais très bien être déjà ici, mais il y a deux, trois, quatre, on pourrait les subdiviser. Mais c'est de l'intentionnalité. Alors je les mets tous dans l'intentionnalité. Ce n'est pas une présence réelle au sens absolu. Présence intentionnelle. Et je me rappelle quelqu'un que j'ai rencontré hier. Je me rappelle, présence intentionnelle. Si j'ai une très très forte imagination, ça devient presque une hallucination. Elle est présente, je vous affirme, vous ne la voyez pas? Non, je ne la vois pas. Mais moi je la vois. L'imagination marche très très fort, à un moment donné, c'est extraordinaire. On peut arriver à faire ça. Il vaut mieux pas essayer, parce qu'au bout d'un certain temps, ça devient dangereux. Mais on pourrait, n'est-ce pas, intensifier l'intentionnel à tel point qu'il devienne une hallucination. Par l'imagination. Alors à ce moment-là, je ne distingue plus, et c'est ça l'hallucination, je ne distingue plus l'imaginaire du réel quantitatif. Alors, à un certain moment, ça devient malade, hein. C'est là où vous commencez à dire, il perd un peu les pédales. Parce qu'il ne distingue plus l'imaginatif. Dans l'hallucination, c'est ça. Et c'est l'hallucination tactile qui est l'ultime. Parce que normalement, le toucher est quand même ce qui nous met le plus sur le plancher des vaches. Et donc, le réel qu'on touche, c'est par les pieds, n'est-ce pas ? Et par la main. Alors ça, on touche le réel. Et quand il y a les hallucinations tactile, c'est terrible, très difficile à rattraper. Les hallucinations du côté de la vision, c'est normal, si on a beaucoup d'imagination. Les hallucinations du point de vue de l'ouïe, on entend des voix, c'est aussi normal. Ça. Si on a de l'imagination, si on a une forte imagination, présence imaginative, c'est là l'imagination. Alors tout ça, je mets ensemble. C'est des présences intentionnelles. Alors, qui sont distinctes de la présence physique. Troisième type que nous allons voir, l'omniprésence de Dieu. Dieu est présent de façon tout à fait unique. L'omniprésence du Créateur. À cette omniprésence du Créateur va s'ajouter la présence de la grâce, qui se comprend toujours en continuité avec la présence de l'omniprésence. Le Christ est présent en moi par la foi, par la grâce. Quel est le type de présence du Christ par la grâce? La très sainte Trinité est présente en moi par la grâce. L'habitation de Dieu en nous, c'est la présence. C'est un type de présence que je ne saisis qu'à travers la foi et dont j'ai l'expérience par les dons du Saint-Esprit. Je sais dans la foi qu'il y a une présence, mais je ne l'expérimente pas nécessairement. Et à certains moments, je l'expérimente grâce aux dons du Saint-Esprit. Et c'est par les dons du Saint-Esprit que j'expérimente cette présence nouvelle, particulière, du Christ et de Marie et de la très sainte Trinité. Il y a en plus, alors je la mettrai peut-être, la mettre cinquième celle-là, la présence, puisque c'est la grâce, mais au niveau charismatique. Au niveau charismatique, pour la mettre sur un point d'importance, là. Hein. Présence charismatique d'une vision. J'ai vu la Vierge Marie. C'est une présence charismatique. Et si on voulait faire la théologie, il faut la faire aujourd'hui. Parce que quels sont les critères d'une apparition crédible ? Quel on doit donner foi. Alors, quel est le type de présence au niveau charismatique? C'est autre chose. Hein. C'est autre chose que la présence de la foi. C'est plus une question de foi. Sauf pour le croyant, sauf pour celui qui voit. Celui qui voit, c'est autre chose. Hein. Alors, il y a tout l'aspect particulier d'une foi dans cette présence charismatique et donnée, où Jeanne d'Arc qui reçoit ses voix. Jeanne d'Arc qui reçoit ses voix, c'est pas imaginatif. Et on s'aperçoit que c'est pas imaginatif quand, de fait, ça touche le réel. Hein. Mais tant que c'est pas réel, touche, on peut dire, ça peut être imaginatif. Et puis à un moment donné, on dit, c'est charismatique. Si c'est charismatique, c'est de Dieu. Il y a l'intervention de Dieu, donc il touche quelque chose de réel. Alors, il y a les voix, il y a la vision, il y a une présence. Une présence d'un type particulier et unique. Et puis, il y a la présence sacramentelle. La présence sacramentelle touche au niveau de la grâce. Elle n'est pas du côté charismatique. La présence du Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, c'est encore un autre type de présence. Vous avez donc six modalités de type de présence que vous pouvez essayer de préciser. Alors il y aurait une septième type de présence, toujours dans le sacramentel, en dehors de la présence réelle du Christ, qui est la présence dans les autres sacrements, par la virtus. C'est plus la présence per modum substantiae, mais c'est par la vertu. Parce que dans l'Eucharistie, c'est per modum substantiae. C'est pour ça que c'est important de voir la présence du Christ dans l'Eucharistie par rapport aux autres présences du Christ par les sacrements. Dans les autres sacrements, c'est per modum virtutis, par mode de vertu. Tandis qu'au contraire, dans l'Eucharistie, c'est per modum substantiae. C'est une présence qui se donne par le point de vue substantiel. Donc, voyez bien ces différents types de présence, puisque ça, c'est important pour nous. Petite réflexion sur la présence. Hein. C'est très important, c'est tout à fait actuel, ça, ces choses-là. Les modernes aiment ça. Gabriel Marcel, Lavelle, la présence. La présence, la conscience de la présence de l'être. Tout un livre de Lavelle là-dessus, la présence de l'être. Et quand ça a commencé à apparaître, je me souviens, j'étais au seul choix, tous les étudiants avaient la présence de l'être. La présence de l'être, la présence de l'acte, la présence. Oui, présence intentionnelle. L'être, il est présent comment? Est-ce que vous l'avez rencontré? Présence de l'être. Présence d'un spectre. Une maison hantée. C'était des amis qui m'avaient raconté ça, dans une maison hantée. Alors il y avait le type qui disait, mais pas du tout, présence de spectre, ça n'existe pas. Il y a des présences comme ça qui sont très mystérieuses, qu'est-ce que ça représente exactement? Alors les amis s'étaient mis, oh, tu vas voir. Alors ils avaient joué, ce qu'ils n'auraient pas dû faire, parce que c'est très dangereux de jouer là-dessus. Alors évidemment, vous voyez, il y avait le spectre qui apparaissait à minuit. C'était l'ami qui avait invité, après une espèce de drap extraordinaire. Le spectre qui apparaissait à minuit. Alors là, c'était la présence quantitative. En plus, il avait pris un revolver, évidemment, qui n'était pas chargé, qui était chargé simplement. Et puis l'autre en disant, et là, elle le menaçait. Ah, ce spectre était vraiment, c'était une réalité, maison hantée. Et le type, il est devenu fou. On comprend, il a un petit choc. Hein. Pas celui qui a fait le spectre, mais celui qui a reçu le spectre. On a vu des maisons hantées, ils disaient, mais non, c'est de la blague, il n'y a pas de maison hantée, ça n'existe pas. Hein? Alors il faudrait, voyez, ajouter la présence, les présences démoniaques, qui ne sont pas charismatiques, ou qui ne sont pas la grâce, qui sont des présences préternaturelles. Oui. Alors, la présence, ça existe. Il y a du préternaturel. Et le préternaturel, alors, ne peut plus se détecter scientifiquement. C'est du préternaturel. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que quand on dit préternaturel, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Parce que ça existe, ces choses-là. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Ça existe. Il faut faire attention. Il ne faut pas toutes les nuits entendre quelqu'un qui marche dans le couloir. Il y a des hippopotames, n'est-ce pas, qui marchent dans le couloir. Alors, c'est une présence sûrement préternaturelle. Non, mais il y a des présences préternaturelles. Le démon peut se rendre présent. Il peut se rendre présent d'une manière imaginative, mais comme un prodige particulier. C'est du préternaturel où le démon joue énormément sur l'imaginaire. C'est le prince de l'imaginaire. Hein. Faut pas l'oublier. Alors il peut donner des choses. Alors est-ce que cette présence préternaturelle est-elle plus que la présence ici intentionnelle? C'est très délicat. Je crois qu'il peut faire plus. Et c'est pour ça qu'il y aurait une septième présence. C'est une présence préternaturelle. Ceci, c'est pour rappeler que la présence, c'est une relation de personne à personne, face à face. On est présent à quelqu'un. C'est une relation. Et c'est une relation qui est fondée sur l'action ou la passion. Tout le point de vue de la présence, il faut ajouter ça, nota bene, à la métaphysique de la relation. Alors, c'est la métaphysique de la relation se termine par la présence. Et donc, cette modalité de la présence. Voyons maintenant l'omniprésence. L'omniprésence de Dieu se fonde sur l'acte créateur. C'est parce que Dieu est créateur de laisser participer qu'il est omniprésent. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on pâtit. Du moins, quelqu'un est présent à nous dans la mesure où il agit sur nous et dans la mesure où on pâtit vis-à-vis de son action. Or, le Créateur, c'est celui qui me communique l'essai. C'est celui qui agit sur moi d'une manière fondamentale. Et première, toutes les autres actions présupposent celle-là. Lui, il agit à partir de rien. Donc, toute mon existence est sous l'action de la création. Tout mon essai est sous l'action du Créateur. Et l'acte créateur de Dieu, comme il est éternel, est toujours actuel. Dieu actuellement agit sur moi comme créateur. Il me maintient dans l'être. S'il n'y avait pas l'acte créateur de Dieu actuel sur moi, je ne serais rien. Puisque mon existence dépend de son action actuelle. La conservation dans l'essai, qui est un acte du gouvernement divin en tant que je suis créé par Dieu. Donc en tant que je suis créé par Dieu, je suis maintenu dans l'être, j'existe actuellement grâce à l'action de Dieu. Et cette action de Dieu atteint en moi ce qu'il y a de plus intime, de plus profond, de plus substantiel en moi. On est présent à quelqu'un dans la mesure où on agit sur lui. Puisque cette action de Dieu sur moi est une action radicale, je ne peux pas avoir une action plus radicale que celle-là. Une action qui m'étreint dans tout ce que je suis. Et puisque cette action de Dieu, du Créateur, ne peut pas se servir d'instrument, elle est immédiate. Elle est de substance à substance. Dieu agit substantiellement et il agit substantiellement sur moi. Donc, elle est immédiate. C'est pour ça qu'on dira que la présence de Dieu comme Créateur est une omniprésence, une présence qui saisit tout, rien n'échappe à l'omniprésence. Tout ce qui existe, du fait même qu'il existe, est porté par Dieu. Et donc Dieu est présent en lui, intimement présent. Intimement, puisque justement il agit directement de substance à substance, par son acte créateur, et dans son acte créateur. Dieu porte tout et agit immédiatement, sans intermédiaire. C'est donc une présence invisible, je ne la vois pas, qui compénètre tout mon être. Puisque l'action de Dieu ne fait pas nombre avec toutes les autres actions. Elle est fondamentale et elle est première. Elle est au niveau de l'être. Toutes les autres actions sont au niveau de la forme. Moi, je ne peux agir qu'au niveau de la forme. Nous ne pouvons agir qu'au niveau de la forme. Dieu seul agit au niveau de l'être. Et c'est propre justement de la création, c'est d'agir au niveau de l'être. De laisser participer. Il agit donc de cette manière la plus intime qui soit, la plus profonde qui soit, la plus simple. Ce n'est pas une action partielle, c'est une action totale. Dieu envahit tout. Omniprésence, et c'est l'exemple que donneront les mystiques en disant c'est comme l'éponge qui est plongée dans la mer et qui est plongée dans la substance même de Dieu. Il y a des textes de Denis sur l'omniprésence qui sont extraordinairement beaux en disant justement c'est qu'on est plongé dans la totalité de l'être de Dieu, on est porté dans la totalité de l'être de Dieu et Dieu nous saisit, nous prend dans toutes les fibres de notre être, dans tout le tissu de notre être, et qu'il est plus présent à nous-mêmes que nous sommes présents à nous-mêmes. Puisqu'il est présent en tant qu'il agit. Et nous, nous sommes présents en tant que nous réfléchissons sur ce que nous sommes. Donc, il est présent dans une intimité que nous ne connaissons pas. Je ne suis pas présent à moi-même dans mon être. Je suis présent à moi-même dans mon activité, dans ma vie. Dans ma vie, et dans ma vie spirituelle, dans ma vie intellectuelle. Donc ma présence à moi-même est toujours une présence intentionnelle. Tandis que la présence de Dieu sur moi est une présence substantielle. Je suis donc Dieu est présent à moi-même d'une manière unique. Je n'ai pas normalement, au point de vue humain, conscience de cette présence. Je peux l'analyser, je peux l'affirmer, mais je n'en ai pas l'expérience. Je n'avais pas l'expérience de l'omniprésence de Dieu. Mais vous pouvez, par la grâce et dans la foi, par les dons du Saint-Esprit, avoir expérience de cette présence de Dieu qui prend tout. Alors à ce moment-là, vous voyez, ça fait le fondement de l'abandon. Le fondement de l'abandon, on ne s'abandonne que lorsque on touche le roc. Autrement, on ne peut pas s'abandonner. Si on a l'expérience de l'omniprésence de Dieu, immédiatement, on s'abandonne. On s'en remet à Dieu. Mais si on n'a pas l'expérience, on veut s'abandonner par l'adoration, mais c'est par l'adoration alors qu'on peut s'abandonner. Tandis que s'il y a l'expérience de l'omniprésence de Dieu en nous, alors immédiatement, il y a une espèce, une attitude d'abandon, de remise totale de tout nous-mêmes, puisque nous sommes entièrement portés par Dieu, puisque Dieu est plus présent à nous-mêmes que nous sommes présents à nous-mêmes, nous nous remettons entièrement à cette présence de Dieu. Et nous demandons à Dieu de prendre possession de tout notre être. Cette omniprésence de Dieu qui fait que Dieu n'a pas de lieu. Dieu ne m'enveloppe pas de l'extérieur, Dieu m'enveloppe de l'intérieur. Et Dieu enveloppe toutes les créatures de cette manière-là. Il est celui qui contient et qui porte toutes ces créatures. Et qu'il agit toujours sur elles. Et qu'il continue de s'agir sur elles. Dieu n'anéantit rien de ce qu'il a fait. Et c'est cette omniprésence de Dieu qui va directement contre l'annihilation. Dieu pourrait annihiler, mais il n'annihile pas à cause de sa sagesse. Et c'est à cause de sa sagesse qu'il ne peut pas y avoir d'angoisse de cette omniprésence. On pourrait avoir une espèce d'angoisse de cette omniprésence si justement on comprenait que Dieu était comme un tyran qui pourrait nous annihiler d'un instant à l'autre. Alors ce sera affolant. Sentir qu'on est entièrement saisi par lui et qu'il pourrait nous annihiler comme il le veut. Mais dès que j'ai conscience de cette omniprésence, l'acte créateur de Dieu étant un acte de sagesse, c'est que Dieu veut me garder et qu'il me garde plus jalousement que je ne suis gardé par moi-même. Ça fait partie de l'acte créateur de Dieu. Et c'est ça qui me donne la sécurité. Et c'est ça qui permet l'abandon. Qui permet la remise. Dans l'adoration. Puisque je ne peux me remettre à Dieu que par l'adoration. Mais le fondement, c'est l'omniprésence. Bon, si Dieu est omniprésent, dans cette lumière de l'omniprésence, qu'est-ce que je vais découvrir en moi ? Dans cette lumière de l'omniprésence, hein, toujours, jugement de sagesse, à partir du mystère de Dieu, je regarde la petite créature. À partir du mystère de Dieu omniprésent, je regarde ce que je suis. Alors, première affirmation, l'omniprésence, Dieu plus présent à moi-même que je ne suis présent à moi-même. Dieu plus présent à toutes les créatures que les créatures sont présentes à elles-mêmes. L'omniprésence va impliquer le sens de la présence, l'unité, localisée. En tant que créature corporelle, je suis limité et localisé. Et c'est Dieu qui fonde le lieu, puisque c'est l'omniprésence qui est au-delà de tout lieu, qui me fait comprendre que je suis limité. Que je suis limité dans mon être et que je suis localisé dans mon être. Localisé par ma quantité. Nous allons reprendre divers aspects. Je suis localisé par le point de vue de la quantité. Je suis localisé. C'est-à-dire que il y a une extériorité à moi. C'est la limite de mon être physique, ça. Je suis extérieur à Dieu, puisque je ne suis pas Dieu. C'est moi qui mets une limite. La limite de mon corps. Mais en même temps, je m'aperçois que mon esprit n'est pas localisé. Mon intelligence et ma volonté sont au-delà de la localisation physique quantitative. Et par le point de vue de mon intelligence et par le point de vue de ma volonté, je puis rejoindre l'omniprésence de Dieu. Et je suis porté par cette omniprésence. Et mon intelligence et ma volonté participent à cette omniprésence.
Entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.